C'est vrai que c'est mieux de monter que de descendre, hein. Franchement, hein. Où ai-je la tête ? Alors, on est heureux d'être là, mon épouse est là, et je n'ai pas ramené mes 5 enfants. Je me suis dit, ça va manquer de place, hein. En tout cas, on est Antibois, j'y suis depuis 28 ans à Antibes, et j'aime beaucoup cette église, et... Je vous invite à fermer les yeux juste un moment. Merci pour ta merveilleuse présence, la louange. Merci pour ces paroles inspirées. Merci de téléguider cette réunion, de la contrôler par ton Esprit Saint maintenant, de tout coordonner. Coordonne tout. Tu es alpha, oméga, premier, dernier. Coordonne tout dans le nom précieux de Jésus. Il y a un jeune homme ici, dans l'église de Arles. Il a un ministère don de Christ, un vrai appel au pastorat, un appel à annoncer l'Évangile. Et avec lui, homme de Dieu, tu te demandes quoi faire. Lance-le, s'il est d'accord. Et tout en gardant son activité professionnelle, il peut entrer dans le ministère. Et toi qui es concerné par cet appel, ne retiens pas, laisse faire. Il te donne une parole pour t'aider. C'est une parole qui t'a déjà parlé dans le passé et il te la donne à nouveau pour que tu saches que c'est bien de toi qu'il parle. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Tu es ce maillon faible et tu te sens comme ça à l'intérieur. Et moi, dit l'Éternel, je veux que tu restes toujours comme ça. Car quand il agira avec toi, ainsi la gloire ne sera pas sur toi, mais sera sur moi, dit le Seigneur. Alors mon ami, faut y aller, te dit le Seigneur. Je suis avec toi, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Amen. Amen. Il y a un homme également qui, je crois, est blessé à la jambe droite. Et ça te limite pas mal dans l'œuvre de Dieu. Et il te dit ce matin, je veux te guérir, mais si je te guéris, c'est pour me servir. C'est pour t'accorder plus de mobilité, plus de liberté, plus de force pour annoncer l'Évangile. Reçois ce matin et dans les jours prochains ta guérison, saisis-la par la foi. Et avec ce regain de santé, sers-moi d'une manière nouvelle. Avec un corps renouvelé, avec un cœur renouvelé, avec un zèle renouvelé, comme jamais de ta vie. C'est seulement à cette condition que je vais te guérir. Si c'est juste pour ton confort égoïste, tu guériras pas. mais si c'est vraiment pour me servir d'une manière nouvelle, alors je te relève. Fais ton choix. Je te conseille de choisir la vie, dit le Seigneur. Je veux que ma brebis, elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10:10. Mais cette vie que j'envoie sur toi, c'est pour la donner aux gens. C'est pour communiquer la vie éternelle aux perdus qui t'entourent. Fais ton choix, entre dans mon plan divin pour être béni dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Amen. Eh bien, on est heureux, hein, quand le Seigneur parle. Et moi qui suis devant vous, j'ai vécu il y a environ 5 ans un réveil personnel. Fort, très très fort. Avec une nouvelle mission qui est d'annoncer un réveil. En France, en Europe, dans la francophonie et dans le monde entier, avant que Jésus revienne. Dieu m'a dit, tu n'as plus qu'un message, le réveil. J'étais pas dans une bonne période, et j'ai dit oui, pourquoi pas, on fera ce qu'on pourra. Et puis aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Wake Up. Réveille-toi. Et j'ai ajouté un sous-titre, le réveil, c'est maintenant. Et ça commence individuel. Individuel. Et ça peut commencer ce matin, maintenant. Un feu qui s'allume nouveau. Et tu brûles, et les gens viennent te voir brûler. Et il y a une grâce qui coule. Alors, le but, c'est à la retraite de fonctionner. Je sens que je dois voyager en Afrique. Le réveil va venir de l'Afrique francophone. Puis il va arriver en France, ça va se réveiller en France, ça va toucher l'Europe, ça va toucher l'ensemble de la francophonie sur les 5 continents, et puis ça va se mondialiser. Ça sera un réveil de maillons faibles. Vous le savez, la France, l'Europe, on est vraiment les maillons faibles du réveil. Hein. On est les plus pauvres des plus pauvres des plus pauvres. L'Afrique est meilleure, les États-Unis nord et sud sont meilleurs, l'Asie est meilleure. Et donc c'est un réveil de maillons faibles pour que aucune gloire n'y soit volée. Il prend des pays faibles en réveil pour qu'il ait seul la gloire. Et donc les francophones vont vivre quelque chose de très fort. Tel que je l'ai reçu dans mon cœur, c'est pour les prochains 30 ans. C'est très comparable au premier réveil à Jérusalem. Le réveil à Jérusalem a duré 30 ans environ. Et ça va être une répétition du réveil de Jérusalem, mais en version beaucoup plus forte, en version mondiale. Je crois sur une période de 30 ans. J'ai reçu ça plus de 15 ans en arrière, déjà j'avais ça dans mon cœur. Et puis il y a 5 ans, il me dit « maintenant, faut le dire ». Faut en parler dans la simplicité et faut préparer les gens au réveil. Amen. Donc mon idée, c'est vendre quelques livres que j'ai écrits. C'est tout simple, hein, mais ça conduit dans la doctrine, dans l'enseignement équilibré de la parole. Ça donne des bases. Je crois que ce réveil va équiper les saints. Équiper les saints dans la doctrine, mais équiper les saints dans l'esprit, parce que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans un merveilleux équilibre entre la doctrine et l'esprit. Avec une dynamique merveilleuse. Alléluia. Donc voilà, je vends mes petits bouquins, comme ça je peux acheter mes petits billets quand je vais en Afrique. Ça, je leur coûte rien, ils sont pas riches, hein. Amen. Donc je leur coûte rien. Bon, je mange bien, j'aime bien manger. Ça va leur coûter un peu, quelques bons plats, quelques... Mais en fait, j'ai fait un bypass, donc je mange beaucoup moins qu'avant. Donc je suis assez économique, finalement. Hein. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder, d'en acheter un. Je fais 10 euros l'unité. Non, je fais 12 euros l'unité. Quand on prend les deux, c'est 10 euros l'unité, ça fait 20 euros. Et si vous voulez m'aider un peu dans ce projet, en tant que bienfaiteur, vous devenez adhérent de l'association, mais vous n'avez aucune obligation d'être à l'Assemblée Générale. Mais par contre, moi, je vous envoie des infos sur le réveil. Amen. Ce qui se passe en France. Ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe à droite, à gauche. Amen, c'est ma terre. Le réveil. Alléluia. Ouh ! Ça vous donne pas envie ? Ah, ça me donne envie. Donc, rejoins-nous, Wake Up. Voilà. Et mon épouse, ma charmante épouse, vous voulez la connaître ou pas ? Oui. Alors, je lui ai demandé de se lever, voilà. Elle m'a fait 5 enfants, gloire à Dieu. Le 4e n'était pas prévu. Oh, merci Seigneur, il est arrivé quand même. Le 5e, on lui a ligaturé les trompes. Et malgré tout, le 5e est arrivé. Incroyable. Et les clips ont bien tenu, hein, droite-gauche. Hein. Il y a un pont microscopique qui s'est fabriqué. Et la 5e est arrivée, elle a 17 ans aujourd'hui. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais donc prêcher le réveil, hein, c'est mon thème, partout où je vais, je prêche le réveil. Et j'aimerais parler du réveil et de la mort à soi-même. Dis à ton voisin, ça va piquer un peu. Mais je mets des aromates, je fais en sorte que la mort soit belle. C'est comme Jésus, il y avait les aromates pour que ça sente bon. C'est la mort, mais ça sent bon. On le fait avec joie, on meurt avec gaieté. Alléluia. Et l'idée, c'est plus de Jésus, moins de moi. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, lisons ensemble dans Galates, chapitre 5, verset 24. Un premier texte. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Un autre texte, toujours dans Galates, au chapitre 2 et au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Dans ces deux textes, il est question de crucifixion. Galates 2, crucifie ta chair. Elle a des pulsions pas belles, pas glorieuses. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Le deuxième texte dit, sois crucifié avec Christ. En clair, suis mon chemin. Meurs comme moi à la croix. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une crucifixion physique, puisque Jésus a tout accompli physiquement. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Mais il s'agit d'une crucifixion spirituelle. Amen. C'est la crucifixion du vieil homme, la crucifixion de la vieille femme, celle qui prend trop de place, celle qui empêche Jésus de s'étendre. Quelque chose doit mourir. Et on ne meurt pas aux mêmes choses. Et pendant que je te parle ce matin, réfléchis à quoi tu dois mourir. Ferme tes yeux, rentre dans le thème, réfléchis à quoi tu dois mourir. On se donne une minute. Réfléchis à quoi tu dois mourir. Et quand tu l'as trouvé, lève ta main discrètement et je saurai que je peux commencer. Amen. Il y en a, ils trouvent vite, puis d'autres, ils trouvent plus lentement. Mais il faut qu'on trouve quelque chose à faire mourir ce matin pour que Jésus règne, pour que Jésus domine, pour que Jésus prenne le contrôle, pour que ses émotions gagnent, pour que ses élans de volonté gagnent, pour que ses pensées gagnent. Plus de lui, moins de moi. Voilà, vous l'avez, ce qui doit mourir? Alors, je vais vous montrer ce matin 5 caractéristiques de la mort de Jésus par crucifixion. On va d'abord aborder l'approche physique, comment Jésus physiquement est mort, et on va faire un parallèle spirituel sur comment nous aussi on doit mourir. Pas physique, mais spirituel. D'accord ? Vous me suivez ? 1. La mort par crucifixion, elle est progressive. Pas instantanée. Lors de cette crucifixion, les religieux sont fort ennuyés. Pourquoi ? Parce que le lendemain de la crucifixion, c'est le sabbat. Et dans la loi juive, un homme crucifié le jour du sabbat, c'est une malédiction. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, les religieux ? Accélérer la mort. Et un moyen permettait d'éliminer rapidement le crucifié, c'était lui casser les jambes. Il ne pouvait plus s'appuyer. Il ne pouvait plus respirer et il s'étouffait rapidement. Alors les religieux vont dire aux Romains, casse-lui les jambes. On ne veut pas un mort sur une croix le jour du sabbat. Non. Et les Romains vont dire non. Pourquoi non? Parce que la mort à soi-même n'est pas rapide. Elle est progressive. C'est pas un AVC. C'est pas un arrêt cardiaque brutal. C'est pas une balle dans la tête. C'est lent. Dans le passé, dans l'histoire de l'Église, une fausse doctrine a germé, qui s'est appelée l'entière consécration. Elle consistait à vivre une expérience un jour qui te rendait totalement saint. On appelait ça l'entière consécration. Dans cette période en Angleterre où régnait un homme de Dieu remarquable, Spurgeon, il s'est intéressé à cette doctrine et il a constaté que bibliquement elle ne tenait pas la route. Alors il a voulu rencontrer ce prédicateur qui avait du succès pour essayer de lui montrer que l'entière consécration, la mort à soi-même d'un coup, plus aucun péché, tranquille jusqu'en vie éternelle, non, ça n'existe pas. Alors il l'a invité à manger. Voyez, ils ont mangé tranquillement, ça s'est bien passé. Puis à la fin du repas, Spurgeon a pris un verre d'eau qu'il avait et il l'a jeté sur lui. L'autre s'est levé, il s'est mis en colère. Il s'est fâché, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se dit homme de Dieu, on me jette un verre d'eau à la figure. Puis il était en colère et puis il allait partir. Et puis Spurgeon lui a dit, mon ami, voyez, le vieil homme, il était endormi, mais il a suffi qu'un verre d'eau pour le réveiller. Ça n'existe pas, la mort à soi-même d'un coup. C'est lentement mais sûrement. Ça va ? Ça pique un peu, hein ? Deuxième caractéristique de la mort à soi-même, elle est douloureuse. La crucifixion était une mort très douloureuse. Dans Ésaïe 53, verset 3, verset 7, verset 10, ils sont affichés. Est dépeint la crucifixion de Jésus et reviennent des expressions très fortes qui sont en lien avec la douleur. Par exemple, homme de douleur, homme habitué à la souffrance, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, maltraité, opprimé. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc on découvre que la crucifixion était un supplice excessivement douloureux parce que la croix pesait 70 kilos, parce que Jésus venait d'être flagellé de la tête aux pieds, défiguré même, dit Ésaïe 52, par les fouets qui ont arraché un bout de son visage. Il n'avait plus visage humain, dit Ésaïe 52. La souffrance des clous, la souffrance de la chaleur, la souffrance de la soif, la souffrance du manque d'air pour respirer, la souffrance du pincement de nerfs. Quand on se soulève légèrement pour respirer un peu, ça vous prend un air qui vous remonte du talon jusqu'au haut de la tête. Un coup d'électricité, comme une sorte de sciatique. À chaque respiration, douloureux. Et la mort à soi-même est toujours douloureuse. La mort à soi-même n'est jamais sans douleur. Et donc, il faut l'intégrer. C'est comme la muscu. Le muscle gonfle quand ça fait mal. Tant que ça fait pas mal, ça gonfle pas. C'est comme en musculation. Vous voyez ? Si vous voulez prendre du pecto ou de l'abdo, il faut avoir mal. Sinon, il ne pousse pas. Tu peux en faire tous les jours de la muscu. Mais si ça pique pas, ça gonfle pas. Et c'est exactement la même chose avec la mort à soi-même. Faut que ça pique. Et quand ça pique, mais que je sais que ça me change, ça pique pas pour rien. Ça pique pour me changer. Ça pique pour me transformer. Et alors je dis comme Jacques, réjouissez-vous des épreuves que vous pouvez rencontrer. Car les épreuves vous font monter en patience. Et le texte ajoute, mais il faut que la patience ait atteint son développement total. Donc acceptons de mourir en pleurant. C'est nécessaire. Ça ne peut pas se faire autrement. Bienvenue au club. Qui veut partir ? Ouvrez les portes. Mais vous pouvez rester et en savoir un peu plus sur la mort à soi-même. Et ce qu'il y a de merveilleux avec la mort à soi-même, c'est qu'on meurt avec douleur, hein ? Mais il ne vient pas vers vous avec un gros marteau. Imaginez que vous soyez une petite coque de noix. Madame est une coque de noix. Une belle coque, hein. Alléluia, hein. Pardon, monsieur, mais... voyez, Dieu ne vient pas avec un gros marteau écrabouiller la coque. Non. Non. Non, Dieu vient avec un petit burin et un petit marteau et il va casser la coque dure, mais il ne va pas détruire le fruit. Vous voyez, il va nous faire mourir par-ci, par-là. Son but n'est pas de nous anéantir, de nous pulvériser, mais c'est juste de tuer la coque du vieil homme, la coque de la vieille femme, pour laisser sortir le fruit divin, le fruit de l'esprit. Et un coup à droite, un coup à gauche. Et petit à petit, la coque dure s'en va. Et un homme nouveau, une femme nouvelle émerge. Tout un art du Seigneur. C'est merveilleux. Qui a envie d'essayer ? Amen. Alléluia. Alors, vous inquiétez pas, même si vous demandez rien, ça va arriver. Eh oui, on n'est pas des masos quand même. Hein, on ne les demande pas, les épreuves. Hein, mais vous inquiétez pas, il veut à tout prix vous rendre meilleur. Et il va s'occuper de vous. Amen. Vous êtes toujours là ? Troisième point, la mort à soi-même est une mort volontaire. Dans Ésaïe 50, versets 5 à 6, il est question prophétiquement de la crucifixion de Jésus. L'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. C'est une mort où Jésus est volontaire. Vous savez, les crucifiés, ils n'étaient pas volontaires. Hein. C'était tellement compliqué pour les crucifiés qu'on devait leur attacher les bras et maintenir leurs jambes pour pouvoir planter le clou. Et par exemple, au niveau du bras, on leur mettait une corde. Puis tu as deux, trois soldats qui tiraient le bras, qui l'allongeaient sur le bois, et alors qu'il était immobilisé, ils arrivaient à planter le clou. Mais Jésus, quand il arrive sur la croix, il fait « Quand vous voulez. » Une mort volontaire. Elle n'atteint son plein potentiel, la mort à soi-même, que si elle est volontaire. Si elle n'est pas volontaire, elle n'agit pas. Elle peut même créer de la rébellion. Elle peut même créer de l'endurcissement. Vous voyez ? Elle peut même nous rendre pire, aigris, en colère, contre Dieu, contre le ciel, contre les gens, contre le pasteur. Accepte de mourir. C'est ça qui permet l'éclosion de l'homme, de la femme nouvelle. C'est ça qui permet à Jésus de dominer, de régner, de prendre le contrôle de ma vie. J'accepte de mourir de bon cœur. Amen. Quatrième caractéristique de la mort à soi-même. Une mort honteuse. Dans Hébreux 12, au verset 2, il est précisé que Jésus a souffert la croix et qu'il a méprisé l'ignominie. Savez-vous ce qu'est l'ignominie ? L'ignominie, c'est une honte sexuelle. La plupart des peintures, des gravures, nous présentent Jésus avec un pagne, par décence. Mais la vérité, c'est que la crucifixion, les gens étaient totalement nus, devant enfants, devant femmes, devant les religieux, devant les soldats romains, Vous imaginez Jésus tout nu, comme dit prophétiquement le prophète, comme un ver. Il a méprisé la honte sexuelle. Il a méprisé l'ignominie. La mort à soi-même va amener des hontes. Et il faut le savoir. Parfois, ce qui nous libère de nos péchés, c'est la honte. Tant que mon péché est caché, ça va, je le gère, je le combats, j'y arrive pas, mais je fais bonne figure. Mais imaginez votre péché est révélé devant tout le monde. La honte, ça tue le vieil homme. Ça tue la vieille femme. C'est ce qui m'est arrivé. Vous voulez que je vous raconte ? Méfiez-vous, ça n'arrive pas qu'à moi. Hein. J'étais un jeune chrétien, plein de zèle, plein de feu, plein d'enthousiasme, mais légèrement caractériel. Un soupçon. Le problème, c'est que tu t'en rends pas bien compte. Parce qu'on n'est parfois pas conscient de nos faiblesses, c'est les autres qui les voient le mieux. Et puis quand on vous le dit, ah bon ? Donc ça, la honte, ça met en lumière les petits péchés que tu banalises. Tout d'un coup, tu prends la honte de ta vie, et là, tu réalises que ton péché, c'est grave. Parce que tant que c'est caché, c'est pas grave, mais dès que c'est révélé, il y a une conviction de péché qui s'installe. Très forte. Et ça fait mourir le vieil homme et la vieille femme. Alors moi, j'étais un peu caractériel, mais je ne m'en rendais pas bien compte. Et un jour, dans mon église à Montpellier, quai du Verdanson à l'époque, ils ont déménagé depuis, amen. Eh bien, à la fin d'un culte, donc on a pris le pain, on a pris le vin, on est sanctifié, on est dans le Seigneur, communion fraternelle à la sortie. Puis il y a une jeune fille qui s'appelle Béatrice, qui a remarqué que ma mère a quitté l'église. Rétrograde. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui revient et c'est pas facile. Mais Dieu t'encourage. C'est un peu la honte, hein ? Et accroche-toi. Ils t'aiment, tes frères et sœurs t'aiment, le pasteur t'aime, les anciens t'aiment. T'as connu, puis t'as quitté, puis là tu reviens. Puis c'est pas facile. Et alors que on discute, elle me dit soudainement, mais oh oui, je la connais ta mère. Elle a eu son baptême d'eau dans un paquet de pochettes surprises. Alors là, je ne l'ai pas vu venir. Le vieil homme, il est sorti de sa boîte, mais alors, violemment, hein, je me suis jeté sur elle. Je l'ai pris à la gorge. Vous voyez, je la plaque sur la voiture. Et je lui dis en hurlant, mais je vais te tuer, toi ! Je vais te tuer ! Et alors que je suis en train de l'étrangler, tout d'un coup, je réalise que toute l'église est derrière en train de me regarder. Oh ! Elle a une honte ! Je fuis ! J'apprends qu'elle a appelé la police ! Elle a ramené la police à l'église ! La police veut voir le pasteur principal de l'église. Un jeune homme de votre assemblée a étranglé une jeune fille du nom de Béatrice et l'a menacée de mort. À l'époque, il y a les réunions l'après-midi. Je reviens en frôlant les murs. Il y en a même un qui me dit « Reviens pas, le pasteur, il veut te voir !» Et là, vous voyez, c'est pile ou face, quoi. soit j'accepte de mourir de bon cœur, soit je fuis en arrière. Alors j'y suis allé tout penaud. Le pasteur me convoque dans son bureau. J'avais jamais vu le bureau. Et il me dit, Laurent, je t'ai défendu. Mais plus jamais. Jean-René Pérez. Ouais. Merveilleux. Un ministère pour les ados, pour les jeunes, très fort. Il m'a défendu, mais il m'a dit, Laurent, il faut apprendre la tempérance. Alors, vous voyez, moi, je ne suis pas un jeune brillant dans les études. Et tempérance, il sent que je ne comprends rien. À mon visage, vous voyez, faut apprendre la tempérance. Alors, il m'explique. Tempérance, c'est la maîtrise de soi. Voilà. Et croyez-moi, à partir de là, j'ai vraiment travaillé. Et le Seigneur m'a vraiment aidé. J'ai eu quelques rechutes. Mais aujourd'hui, ça va à peu près. Par exemple, j'ai eu un test terrible. Ça, je vous raconte, il faut que je vous raconte, je ne veux pas faire trop long. Hein. Je vais à un enterrement, je prêche l'évangile à un enterrement. C'était une crémation. Et puis à la fin, je salue les gens. Et puis il y a un jeune homme que je salue. Et il me traite d'hypocrite. Vous prêchez, mais vous êtes un bel hypocrite, pasteur. Alors je m'éloigne, je sens que ça sent le roussi. Puis je me connais, hein. Vous voyez, je me connais. Hop, on s'éloigne. Mais pendant que je m'éloigne, lui, il me rattrape. Oh, le coquin. Et alors qu'il m'attrape, il me pousse violemment, il me fait tomber par terre. Je me relève la première fois, un héros. Un héros. Patrick Salafranc est là. Hein. Il est là. Hein. Alors je me relève une deuxième fois, je viens vers lui, et gentiment, je lui dis, tu sais... Je comprends. Et là, il me prend par le colbac, là. Il avait une tête de plus que moi. Et il me soulève. Oh. Et là, quand il m'a reposé, je sens, je perds le contrôle. Je perds le contrôle, mais vraiment, vous voyez. Et là, je reviens vers lui une troisième fois et je lui dis, tu me touches encore, je t'explose la tête. Mais à l'oreille, vous voyez, à l'oreille. Touche-moi encore, je t'explose la tête. Patrick Salarin, il voit le danger. Il voit le danger. Oulololo. Et au moment où il s'approche une quatrième fois pour m'attaquer, m'agresser, Patrick, il arrive, il dit, viens Laurent, on y va, amen. Et il me sauve la vie, alléluia. Imaginez que je l'ai fracassé devant tout le monde, la famille. C'était un test. Claude, il a fait ça. Hein. Et ouais. Il s'est fait virer. Hein. Il était en stage. Il a fait ça. Il a pris le cric. C'était un ancien bandit, hein, Claude. Hein. Il l'a défoncé. Puis il y avait un photographe. Il a pris des photos. C'était dans le journal. Oui, oui. Au Québec, son maître de stage me dit, c'est fini. Tu démissionnes. Tu n'es plus pasteur. Heureusement, il y a eu une grâce. Il a rebondi. Vous voyez ? Donc il y a des hontes, des fois, absolument nécessaires, qui nous aident à mourir un peu plus rapidement. Toujours là ? Amen ? Amen ? Dernier point, et je termine. La mort à soi-même est une mort publique. La mort de Jésus ne s'est pas fait à l'écart dans un lieu caché, mais la mort de Jésus était publique. Tous ont pu assister à la mort de Jésus. Les religieux, les soldats, les passants curieux, sa famille, ses disciples, enfants, hommes âgés, couples. Tout le monde est là pour le voir mourir lentement, doucement. Ça, c'est la mort à soi-même. C'est une mort à petit feu. Et les autres me voient mourir. Ah, ça, c'est bon signe. Quand ta femme te dit, chérie, tu es en train de mourir lentement mais sûrement à ta susceptibilité. Ça, c'est bon signe. Amen, c'est excellent. Vous voyez ? Quand, par exemple, le mari dit à son épouse « Oh, t'es en train de mourir, au ragot. » Petite parole sur l'un, sur l'autre. Tu le fais toujours, mais après tu dis que tu regrettes. Amen. C'est pas parfait. Vous voyez, mais ça commence à mourir lentement, mais sûrement. Et c'est public, en fait. Les gens autour de toi, ils voient que tu meurs à petit feu. Et ça, c'est le symptôme qui ne trompe pas. Si personne ne voit rien quand tu meurs, c'est pas bon signe. Vous voyez, les autres doivent voir qu'on change, amen, qu'on n'est plus le même. Ça, c'est la vraie mort à soi-même. Amen. Alors, ce matin, je voudrais pas... on pourrait prier, on pourrait... Voilà. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça. Je vous avoue, je sors d'un mariage, je suis un peu claqué. Voilà. Mais le pasteur va faire un suivi merveilleux. Allez voir votre pasteur Hervé de la Balle, ainsi que son ami à la retraite. Alléluia! Amen! Il va vous aider à mourir. Vous souriez, c'est bon signe. Mais juste, on va incliner nos têtes, les musiciens vont peut-être revenir. On va jouer un cantique, paisiblement, tranquillement. Et puis, on va se disposer à mourir. Hein ? Je sais que le message piquait un peu ce matin, mais c'est pour la bonne cause. Tout réveil commence par la mort à soi-même. Moins de moi, plus de Jésus. Moins de moi, plus de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je veux que mes progrès soient évidents pour tous. Amen. Et alors qu'on commence à prendre un cantique, on est dans sa présence, dans la louange, eh bien, fais-toi harakiri. Alléluia! Harakiri spirituel! Plante l'épée dans ton ventre, fais un harakiri spirituel, plante-la au milieu, un coup à droite, un coup à gauche. Hein ? Mourons ensemble pour la gloire de Dieu. Mourons pour plus de Jésus. Mourons pour une vie nouvelle en nous qui bénit les gens, qui bénit les perdus, qui bénit les malades, qui bénit les souffrants, qui bénit l'Église. Moins de moi, plus de toi. Jésus, libère ta puissance par ma vie, guéris par ma vie, sauve par ma vie, pardonne les péchés par ma vie. Pardon, Jésus, pardon. Jésus. Alors qu'on est dans sa présence, je vous invite, sans vous hâter, à prendre une décision que je peux quantifier dans un an. Je veux qu'on voit que j'ai changé. Dans un an, je veux que les gens disent « c'est plus le même ». Je veux que Jésus prenne le contrôle. Sa nature, ses sentiments, son caractère, ses dons. Imagine, t'as les dons de puissance, mais t'as pas caractère pour les gérer, tu vas tout casser. D'abord le caractère, d'abord le bon cœur, d'abord la nature de Dieu. peut ce matin prendre une décision qui n'est pas seulement qu'une émotion. C'est une décision. J'en ai assez de cette vie chrétienne moyenne. Je veux une vie chrétienne supérieure. Je veux que tu domines ma vie. La chair ne domine plus. J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et maintenant, le vieil homme, la vieille femme meurt. Et maintenant peut germer l'homme nouveau, la femme nouvelle. Si tu veux faire une expérience comme ça, donne-toi un an. Et puis après, tu demandes aux gens, vous trouvez que j'ai changé ? Amen, fais ça. Faut pouvoir le quantifier. C'est pour ça, donne-toi un an, quantifie-le, demande aux gens. Et cet objectif, je veux changer plus de Jésus, moins de ma personne.
Amen.
Amen, amen, amen. Si tu veux faire cette expérience, cette aventure, mets-toi à genoux devant ta chaise. Vas-y, mets-toi à genoux devant ta chaise. Mets-toi à genoux, crie à Dieu. Crie à Dieu. Jésus, change-moi. J'arrive pas avec ma force. J'arrive pas avec mon énergie humaine. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance. Ni par la chair, ni par le sang, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vas-y, vas-y. Je me repens ce matin. J'ai repéré où je dois mourir. Maintenant, je me repens. Je m'incline devant toi. Je dis, ô Père en moi, au nom de Jésus, ô Père en moi, Saint-Esprit, parole de Dieu, épée de l'Esprit.